1803, la barricade de la rue Thévenot. Georges Biscarat était l'homme qui avait donné le signal de la huée, rue de l'Échelle. Je connaissais Georges Biscarat depuis juin 1848. Il avait été de cette insurrection funeste. J'avais eu occasion de ne pas lui être inutile. Il était pris. Il était à genoux pour être fusillé. J'étais intervenu et je l'avais sauvé. Lui et quelques autres, M, D, D, B, et ce vaillant architecte, Roland, qui, plus tard, proscrit, restaura avec talent le palais de justice de Bruxelles. Cela se passa le 24 juin 1848, dans le sous-sol du numéro 93 du boulevard Beaumarchais, maison alors en construction. Georges Biscarat s'attacha à moi. Il se trouva qu'il était le neveu d'un des vieux et bons amis de mon enfance, Félix Biscarat, mort en 1828. Georges Biscarat venait me voir de temps en temps, et dans les occasions, il me consultait ou me renseignait. Voulant le préserver des entraînements malsains, je lui avais donné, et il avait accepté de moi, cette règle de conduite. Jamais d'insurrection que pour le devoir et pour le droit. Qu'était-ce que la huée de la rue de l'Échelle ? Racontons l'incident. Le 2 décembre, Bonaparte avait fait un essai de sortie. Il avait risqué d'aller regarder Paris. Paris n'aime pas à être regardé par de certains yeux. Cela lui semble insultant. Il est plus hérité d'une insulte que d'une blessure. Il subit l'assassinat, non le clignement de paupières de l'assassin. Mal en prit à Louis Bonaparte. À 9 heures du matin, au moment où la garnison de Courbevoie descendait sur Paris, les affiches du coup d'État étaient encore fraîches sur les murs. Louis Bonaparte était sorti de l'Élysée, avait traversé la place de la Concorde, le jardin des Tuileries, puis la cour grillée du Carrousel, et on l'avait vu sortir par le guichet de la rue de l'Échelle. Il y eut tout de suite foule. Louis Bonaparte était en habit de général. Son oncle, l'ancien roi Jérôme, l'accompagnait, et Flahaut, qui se tenait en arrière. Jérôme avait le grand uniforme de maréchal de France avec le chapeau à plumes blanches. Le cheval de Louis Bonaparte dépassait de la tête le cheval de Jérôme. Louis Bonaparte était morne. Jérôme, attentif. Flahaut, épanoui. Flahaut avait son chapeau de travers. Il y avait une grosse escorte de lanciers. Edgar Ney suivait. Bonaparte comptait aller jusqu'à l'hôtel de ville. Georges Biscarat était là. La rue était dépavée. On macadamisait. Il monta sur un tas de pierres et jeta ce cri. « À bas le dictateur ! À bas les prétoriens !» Les soldats le regardèrent d'un air stupide et la foule d'un air étonné. Georges Biscarat, c'est lui qui me l'a dit, sentit que son cri était trop littéraire et qu'on ne comprenait pas. Il cria « À bas Bonaparte ! À bas les lanciers !» La huée fut électrique. « À bas, Bonaparte ! À bas, les lanciers !» cria le peuple, et toute la rue devint violente et orageuse. « À bas, Bonaparte !» La clameur ressemblait à une exécution commençante. Bonaparte fit un brusque mouvement à droite, tourna bride, et rentra dans la cour du Louvre. Georges Biscarat sentit le besoin de compléter la huée par une barricade. Il dit au libraire Benoît Mouille, qui venait d'entr'ouvrir sa boutique, « Crier, c'est bien, agir, c'est mieux. » Il rentra chez lui, rue du Verbois, mit une blouse, prit une casquette et descendit vers les rues sombres. Avant la fin du jour, il s'était entendu avec 4 associations, les gaziers, les formiers, les chaliers et les chapeliers. Ainsi se passa pour lui la journée du 2. La journée du 3 s'écoula en allées et venues, à peu près perdue, disait Biscarat à Versigny. Et il ajoutait, « Pourtant j'ai obtenu ceci, qu'on déchirerait partout les affiches du coup d'État, si bien que pour en rendre l'arrachement plus difficile, la police a fini par les placarder dans les Vespasiennes, où elles sont à leur place. » Le jeudi 4, de grand matin, Georges Biscarat alla chez le Double, restaurateur, où mangeaient habituellement 4 représentants du peuple, Brive, Berthelon, Antoine Barre et Viguier, surnommé le père Viguier. Tous les quatre y étaient. Viguier racontait ce que nous avions fait la veille, et était de mon avis. Brusquer le dénouement, culbuter le crime dans son propre gouffre. Biscarat survint. Les représentants ne le connaissaient pas et le regardèrent. « Qui êtes-vous ? » demanda l'un d'eux. Avant qu'il eût répondu, le docteur Petit entra, déplia un papier et dit « Quelqu'un ici connaît-il l'écriture de Victor Hugo ?»« Moi, » dit Biscarat. Il examina le papier. C'était ma proclamation à l'armée. « Il faut imprimer cela, » dit Petit. « Je m'en charge, » dit Biscarat. Antoine Barre lui demanda « Vous connaissez Victor Hugo ?»« Il m'a sauvé la vie, » répondit Biscarat. Les représentants lui serrèrent la main. Guilgaud arriva. Versigny connaissait Biscarat. Il l'avait vu chez moi. Versigny dit « Défiez-vous. Il y a, là, dehors, à la porte, un homme. »« C'est un chalier, » dit Biscarat. « Il est avec moi, il me suit. »« Mais, » reprit Versigny, « il a une blouse, et sous cette blouse, un mouchoir. » Il a l'air de cacher cela, et dans ce mouchoir il y a quelque chose. Des dragées, dit Biscarat. C'était des cartouches. Versigny et Biscarat allèrent au siècle. Il y avait au siècle 30 ouvriers qui tous, au risque d'être fusillés, s'offrirent à imprimer ma proclamation. Biscarat la leur laissa et dit à Versigny, « À présent il me faut ma barricade. » Le chalier marchait derrière eux. Versigny et Biscarat se dirigèrent vers le haut du quartier Saint-Denis. En approchant de la porte Saint-Denis, on entendait un grand murmure. Biscarat riait et disait à Versigny « Saint-Denis se fâche, cela va !» Biscarat, chemin faisant, recruta 40 combattants, parmi lesquels Moulin, chef de l'association des corroyeurs. Chapuis, sergent-major de la garde nationale, leur apporta 4 fusils et 10 sabres. « Vous savez où il y en a d'autres ?» demanda Biscarat. « Oui, au bain Saint-Sauveur. » Ils y allèrent et trouvèrent 40 fusils. On leur donna des sabres et des gibernes. Des messieurs, bien mis, vinrent portant des boîtes de fer blanc où il y avait de la poudre et des balles. Des femmes, vaillamment joyeuses, firent des cartouches. À la première porte touchant la rue du Hasard Saint-Sauveur, ils prirent dans une grande cour de serrurier des barres de fer et des marteaux. Ayant les armes, on eut les hommes. Ils furent tout de suite 100. On se mit à dépaver. Il était 10h30. « Vite, vite !» criait Georges Biscarat. « La barricade de mes rêves !» C'était rue Thévenot. Le barrage fut fait, haut et terrible. Abrégeons. À 11h, Georges Biscarat avait achevé sa barricade. À midi, il y fut tué. 3-14. Ossian et Scipion. Les arrestations se multipliaient. Vers midi, un commissaire de police, nommé Boudreau, se présenta au divan de la rue Lepelletier. Il était accompagné de l'agent de la Hode. De la Hode était cet écrivain socialiste, traître, qui, démasqué, avait dû passer de la police secrète dans la police publique. Je le connaissais, je note ce détail. En 1832, il était maître d'études dans l'école où allaient mes deux fils, enfants, et il m'avait adressé des vers. En même temps, il m'espionnait. Le divan Lepelletier était le lieu de réunion de beaucoup de journalistes républicains. De la Hode les connaissait tous. Un détachement de gardes républicaines occupa les issues du café. Alors se fit l'inspection de tous les habitués. De la Hode marchant devant et le commissaire derrière. Deux gardes municipaux suivaient. De temps en temps, de la Hode se retournait et disait « Empoignez celui-ci !» Ainsi furent arrêtés une 20aine d'écrivains, parmi lesquels Hennette de Kessler, note, mort en exil à Guernesey. Voir dans le livre « Actes et paroles », le tome 2, pendant l'exil. Fin de note. Kessler était la veille à la barricade Saint-Antoine. Kessler dit à de la Hode, « Vous êtes un misérable. Et vous, un ingrat, » dit de la Hode, « Je vous sauve la vie. » Parole singulière, car il est difficile de croire que de la Hode fut dans le secret de ce qui allait se passer dans cette fatale journée du 4. Au siège du comité, on nous transmettait de toutes parts des indices encourageants. Tetlin, représentant de Lille, n'est pas seulement un homme savant, c'est un homme vaillant. Le 3 au matin, il était arrivé peu de temps après moi à la barricade Saint-Antoine, où Baudin venait d'être tué. Tout était fini de ce côté-là. Tetlin était accompagné de Charles Gambon, autre homme intrépide. Note. Mort en exil à Termonde. Fin de note. Les deux représentants errèrent dans les rues agitées et profondes, peu suivis, point compris, cherchant une fermentation d'insurgés et ne trouvant qu'un fourmillement de curieux. Tetlin, pourtant, venu au comité, nous fit part de ceci. Au coin d'une rue du faubourg Saint-Antoine, Gambon et lui avaient aperçu un rassemblement. Ils y étaient allés. Ce rassemblement lisait une affiche placardée au mur. C'était un appel aux armes signé Victor Hugo. Tetlin demanda à Gambon « Avez-vous un crayon ?»« Oui, » dit Gambon. Tetlin prit le crayon, s'approcha de l'affiche et écrivit son nom au-dessous du mien. Puis il rendit le crayon à Gambon qui, à son tour, écrivit son nom au-dessous du nom de Tetlin. Alors la foule cria « Bravo, ce sont des bons !»« Criez, vive la République !» dit Tetlin. Tous crièrent « Vive la République !» Et du haut des fenêtres ouvertes, ajouta Gambon, les femmes battaient des mains. « Les petites mains des femmes applaudissant, c'est bon signe !» dit Michel de Bourges. Comme on l'a vu, et nous ne saurions trop y insister, ce que voulait le comité de résistance, c'était d'empêcher le plus possible l'effusion du sang. Construire des barricades, les laisser détruire et les recommencer sur d'autres points. Éviter l'armée et la fatiguer. Faire dans Paris la guerre du désert. Reculer toujours, ne céder jamais. Prendre le temps pour auxiliaire. Ajouter les journées aux journées. D'une part, laisser au peuple le temps de comprendre et de se lever. D'autre part, vaincre le coup d'État par la lassitude de l'armée. Tel était le plan débattu et adopté. L'ordre était donc donné de peu défendre les barricades. Nous disions sous toutes les formes aux combattants « Versez le moins de sang possible, épargnez le sang des soldats et ménagez le vôtre. » Cependant, une fois la lutte engagée, à de certaines heures vives du combat, il devint impossible, sur quelques points, de modérer les courages. Plusieurs barricades furent opiniâtrement défendues, notamment rue Rambuteau, rue Montorgueil et rue Neuve-Saint-Eustache. Ces barricades eurent de courageux chefs. Notons ici, pour l'histoire, quelques-uns de ces vaillants hommes, silhouettes combattantes, apparues et disparues dans la fumée du combat. Radou, architecte, Deluc, Mallarmé, Félix Bonny, Luneau, ancien capitaine de la garde républicaine, Camille Béru, rédacteur de l'Avènement, gai, cordial et intrépide, et ce jeune Eugène Millelot, qui devait, à Cayenne, condamné à recevoir 200 coups de corde, expirer au 23e coup, sous les yeux de son père et de son frère, proscrits et déportés comme lui. La barricade de la rue Homère fut de celle qu'on n'emporta pas sans résistance. Quoique élevée à la hâte, elle était assez bien construite. 15 ou 16 hommes résolus la défendaient. 2 s'y firent tuer. La barricade fut enlevée à la baïonnette par un bataillon du 16e de ligne. Ce bataillon, lancé sur la barricade au pas de course, y fut accueilli par une vive fusillade. Plusieurs soldats furent blessés. Le premier qui tomba dans les rangs de la ligne fut un officier. C'était un jeune homme de 25 ans, lieutenant de la première compagnie, nommé Ossian Dumas. 2 balles lui brisèrent comme d'un seul coup les 2 jambes. Il y avait en ce moment-là dans l'armée 2 frères du nom de Dumas, Ossian et Scipion. Scipion était l'aîné. Ils étaient parents assez proches du représentant Madier de Mongeau. Ces 2 frères étaient d'une famille honorée et pauvre. L'aîné avait passé par l'école polytechnique, le second par l'école Saint-Cyr. Scipion Dumas était de 4 ans plus âgé que son frère. d'après cette magnifique et mystérieuse loi d'ascension que la Révolution française a créée et qui a, pour ainsi dire, posé une échelle au milieu de la société jusqu'alors fatale et inaccessible, la famille de Scipion Dumas s'était imposée les plus rudes privations pour élargir en lui l'intelligence et devant lui l'avenir. Ses parents, touchant héroïsme des familles pauvres d'aujourd'hui, s'étaient refusé le pain pour lui donner la science. C'est ainsi qu'il était arrivé à l'école polytechnique. Il en devint bien vite un des premiers élèves. Ses études faites, il fut nommé officier d'artillerie et envoyé à Metz. Alors ce fut son tour d'aider l'enfant qui montait après lui. Il tendit la main à son jeune frère. Il économisa sur sa modique paie de lieutenant d'artillerie et grâce à lui, Ossian devint officier comme Scipion. Pendant que Scipion, fixé par un emploi de son grade, restait à Metz, Ossian, incorporé dans un régiment d'infanterie, allait en Afrique. Il fit là ses premières armes. Scipion et Ossian étaient républicains. Au mois d'octobre 1851, le 16e de ligne, où Ossian servait, fut appelé à Paris. C'était un des régiments choisis par la main ténébreuse de Louis Bonaparte et sur lesquels le coup d'État comptait. Le 2 décembre arriva. Le lieutenant Ossian Dumas obéit, comme presque tous ses camarades, à l'ordre de prise d'armes. Mais chacun autour de lui put remarquer son attitude sombre. La journée du 3 se passa en marche et en contre-marche. Le 4, le combat s'engagea. Le 16e, qui faisait partie de la brigade Herbillon, fut désigné pour enlever les barricades des rues Beaubourg, Transnonain et Omer. Ce lieu de combat était redoutable. Il y avait là comme un carrefour de barricades. C'est par la rue Omer et par le bataillon dont Ossian faisait partie que les chefs militaires résolurent de commencer l'action. Au moment où le bataillon, armes chargées, allait se diriger vers la rue Omer, Ossian Dumas aborda son capitaine, un brave et ancien officier dont il était aimé, et lui déclara qu'il ne ferait point un pas de plus, que l'acte du 2 décembre était un crime, que Louis Bonaparte était un traître, que c'était à eux, soldats, de tenir le serment que Bonaparte violait, et que, quant à lui, il ne prêterait pas son sabre pour l'égorgement de la République. Une halte s'était faite. On attendait le signal d'attaque. Les deux officiers, le vieux capitaine et le jeune lieutenant, causaient à voix basse. « Et que voulez-vous faire ? » demanda le capitaine. « Brisez mon épée. Vous serez conduit à Vincennes. Cela m'est égal. À coup sûr, destitué. C'est possible. Peut-être fusillé. Je m'y attends. Mais il n'est plus temps. Il fallait donner votre démission hier. » Il est toujours temps de ne pas commettre un crime. » Le capitaine, on le voit, n'était pas autre chose qu'un de ces braves de métier, vieillis sous le hausse-col, qui ne connaissent pas d'autre patrie que le drapeau et d'autres lois que la discipline. Bras de fer et tête de bois, ils ne sont plus citoyens ni hommes. L'honneur ne leur apparaît qu'avec des épaulettes de général. Que leur parlez-vous de devoirs politiques, d'obéissance aux lois, de constitution? Est-ce qu'ils connaissent cela? Qu'est-ce qu'une constitution? Qu'est-ce que les lois les plus saintes, à côté des trois mots qu'un caporal murmure à l'oreille d'une sentinelle? Prenez une balance, mettez dans un plateau l'évangile, dans l'autre la consigne. Maintenant, pesez. Le caporal l'emporte. Dieu est léger. Dieu fait partie de la consigne de la Saint-Barthélemy. Tuez tout, il reconnaîtra les siens. Voilà ce que les prêtres acceptent et parfois glorifient. La Saint-Barthélemy a été bénie par le pape et décorée de la médaille catholique. Note. Pro Hugonotorum Strage. Médaille frappée à Rome, 1572. Fin de note. Cependant, Ossian Dumas paraissait inébranlable. Le capitaine tenta un dernier effort. « Vous vous perdez, lui dit-il. Je sauve mon honneur. c'est précisément votre honneur que vous sacrifiez. Parce que je m'en vais ? S'en aller, c'est déserter. Cette parole parut frapper Ossian Dumas. Le capitaine continua. On va se battre. Dans quelques minutes, la barricade sera attaquée. Vos camarades vont tomber, morts ou blessés. Vous êtes un jeune officier. Vous n'avez pas encore beaucoup vu le feu. Eh bien, interrompit vivement Ossian Dumas, je n'aurai pas combattu contre la République. On ne dira pas que je suis un traître. Non, mais on dira que vous êtes un poltron. Ossian ne répliqua pas. L'instant d'après, le commandement d'attaque fut donné. Le bataillon partit au pas de course. La barricade fit feu. Ossian Dumas fut le premier qui tomba. Il n'avait pu supporter ce mot, poltron, et il était resté à sa place, au premier rang. On le porta à l'ambulance et de là à l'hôpital. Disons tout de suite la fin de cette poignante aventure. Il avait les deux jambes brisées. Les médecins pensèrent qu'il faudrait les lui couper, toutes les deux. Le général Saint-Arnaud lui envoya la croix. On le sait, Louis Bonaparte se hâta de se faire acquitter par les prétoriens complices. Après avoir massacré, le sabre vota. Le combat fumait encore qu'on fit scrutiner l'armée. La garnison de Paris vota oui, elle s'absolvait elle-même. Il en fut autrement du reste de l'armée. L'honneur militaire s'y indigna et y réveilla la vertu civique. Quelle que fût la pression exercée, quoi qu'on fît voter les régiments dans le shako des colonels, sur beaucoup de points de la France et de l'Algérie, l'armée vota non. L'école polytechnique en masse vota non. Presque partout, l'artillerie, dont l'école polytechnique est le berceau, vota comme l'école. Scipion Dumas, on s'en souvient, était à Metz. Par je ne sais quel hasard, il se trouva que l'esprit de l'artillerie, prononcé partout ailleurs contre le coup d'État, hésitait à Metz et semblait pencher vers Bonaparte. Scipion Dumas, en présence de cette indécision, donna l'exemple. Il vota à haute voix et à bulletin ouvert non. Puis il envoya sa démission. En même temps que le ministre à Paris recevait cette démission signée de Scipion Dumas, Scipion Dumas à Metz recevait sa destitution signée par le ministre. Après le vote de Scipion Dumas, la même pensée était venue, à la même heure, au gouvernement, que l'officier était dangereux et qu'on ne pouvait plus l'employer. À l'officier, que le gouvernement était infâme et qu'on ne devait plus le servir. La démission et la destitution se croisèrent en chemin. Par ce mot « destitution », il faut entendre « retrait d'emploi ». D'après nos lois militaires actuelles, c'est de cette façon qu'on casse maintenant un officier. Retrait d'emploi, c'est-à-dire plus de services, plus de soldes. La misère. En même temps que son retrait d'emploi, Scipion Dumas a pris l'attaque de la barricade de la rue Homère et que son frère y avait eu les deux jambes cassées. Dans la fièvre des événements, il avait été 8 jours sans nouvelles d'Ossian. Scipion s'était borné à écrire à son frère pour lui faire part de son vote et de sa démission et l'engager à en faire autant. Son frère blessé, son frère au Val-de-Grâce, il partit sur le champ pour Paris. Il courut à l'hôpital. On le conduisit au lit d'Ossian. Le pauvre jeune homme avait eu les deux jambes coupées la veille. Au moment où Scipion, éperdu, parut près de son lit, Ossian tenait à la main la croix que le général Saint-Arnaud venait de lui envoyer. Le blessé se tourna vers l'aide de camp qu'il avait apporté et lui dit « Je ne veux pas de cette croix. Sur ma poitrine, elle serait teinte du sang de la République. » Et, apercevant son frère qui entrait, il lui tendit la croix en criant « Prends-la, toi. Tu as voté non et tu as brisé ton épée. C'est toi qui l'as méritée. »